Alain Youdieu, plus connu sous le pseudonyme Atom, a commencé à se faire connaître au milieu de la décennie 2010 avec son blog Voilà Moi, dans lequel il publie des chroniques sur l'actualité musicale. Auteur prolifique, son style décomplexé et percutant lui attire rapidement de la sympathie et lui valent quelques inimitiés. Depuis, le jeune homme de 28 ans a parcouru du chemin. Son blog, grâce auquel il a remporté plusieurs distinctions honorifiques, a évolué vers un média. Il a lancé son entreprise Voilà Moi Consulting, spécialisée dans la communication et le marketing par les canaux numériques. Il a la manœuvre de plusieurs initiatives liées au blogging et au marketing digital qui ont fait date au Cameroun, à l'exemple du blog Talk Show, un rendez-vous annuel où se discutent le présent et l'avenir des métiers du digital. Bienvenue dans ce cinquième épisode de la saison 1 de N.com, votre podcast du numérique et des médias au Cameroun, préparé et présenté pour vous par René Nkowa. Aujourd'hui, avec Atom, nous revenons sur l'importance que le blogging a eu dans son parcours, sur les spécificités du marketing digital, du marketing d'influence et des paramètres à considérer pour pouvoir tirer son épingle du jeu dans un contexte local marqué par une grande méconnaissance du fonctionnement de ce nouveau relais d'acquisition par les acteurs du marketing et de la publicité. Bonjour à Tom, merci d'avoir accepté mon invitation à ce nouvel épisode de N.com, le podcast du numérique et des médias.
Bonjour René, c'est un plaisir d'être là. J'espère qu'on va passer un bon moment et que tous ceux qui vont écouter seront satisfaits de notre entretien.
Comme je l'ai dit en introduction, tu es le fondateur de Voilà Moi, qui a successivement été un blog, puis un média et enfin une entreprise de communication et de marketing. Je pense que les auditeurs de ce podcast ont envie de savoir ce qui est à l'origine d'un tel cheminement.
Bon, qu'est-ce qui est à l'origine d'un tel cheminement? Je crois que c'est la passion et la curiosité. Tu sais qu'on est, on a des missions à accomplir sur Terre. Et petit à petit, lorsqu'on avance, on acquiert des expériences. Et Dieu nous guide vers ce vers quoi on est destiné en fait. Donc moi, j'ai toujours été un passionné de l'écriture, un grand passionné des médias. Et lorsque, il y a quelques années, je découvre le blogging après la musique, je me dis, bon, pourquoi ne pas me lancer dans le blogging, m'exprimer, en attendant d'accomplir le grand rêve d'écrivain que je voulais réaliser. Donc, plus tard, après le blogging, vu que je m'intéressais déjà au monde de la communication avec lequel je flirtais, je me suis dit, bon, je fais du blogging, je produis des articles, j'observe pas mal de choses que je critique. Qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui que j'apporte de la valeur ajoutée à ce que je critique? Et j'ai commencé à m'orienter vers le côté agence, consultant, dont j'apportais des corrections en fait à des personnes sur ce qu'ils faisaient. Parfois, je déployais des solutions. Et plus tard, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à monter mon agence de marketing et communication, Voilà Moi Consulting. Donc aujourd'hui, on va dire, on est positionné sur cela. On accompagne pas mal de marques, de projets. Mais je retiens surtout que c'est la passion, la volonté d'évoluer et la curiosité en fait d'ouvrir les portes de sa propre vie.
Si aujourd'hui tu es un chef d'entreprise, tu es d'abord connu pour ton statut de blogueur. Quelle place tient cette qualité de blogueur dans la structuration de ton parcours dans le champ du numérique?
Bon, déjà, il faut dire qu'en tant que blogueur, j'ai pas pris le blogging en fait seulement comme le fait de le faire. Pour moi, le but c'était vraiment d'apporter quelque chose aux gens. C'est-à-dire, je voulais m'exprimer, c'est donner mon opinion. Cette opinion-là, il allait servir en fait aux autres pour que certains puissent en édifier, certains puissent tirer profit d'une façon ou d'une autre. Donc aujourd'hui, si on va dire la structuration de mon parcours, je pense que le blogging m'a permis de m'affirmer. Dis d'abord ce que je pense et d'être ferme avec. Parce que très souvent, on a des opinions, mais les opinions sont un peu, comment dire, on a peur de nos propres opinions. Avec le blogging, j'ai pu ouvrir ma voix et j'ai dit aux gens, je pense tel et je crois que ça va arriver. Maintenant, ça m'a aussi permis de me discipliner parce que lorsque j'étais sur le champ public, lorsqu'on blogue, on n'est pas dans son journal intime. En bloguant, on se met à nu devant tout le monde. Donc, si on prend le risque de mentir, demain, ça nous rattrape. Donc, ça m'a permis de me discipliner personnellement, d'apprendre à mieux réfléchir ce que je vais dire. Parce que lorsque je dis, c'est pour la durée. L'avantage aussi, c'est que bon, comme j'ai pris la peine de me disposer sur le temps, en général, j'ai toujours eu raison. Maintenant, dans mon parcours d'entrepreneur, il faut dire que ça m'a crédibilisé le fait d'être souvent la voix qui ne change pas. C'est-à-dire, les gens ont une opinion, une pensée courante, mais moi, je viens à contre-courant. Et en général, les gens, on ne m'achète pas forcément pour ça. Donc, quand je viens vers quelqu'un, je lui dis nettement, moi, je pense telle chose de toi. Je pense qu'on devrait orienter les choses comme ça. Et on va dire, le blogging, oui, ça m'a servi à ça. Maintenant, je crois que ça a beaucoup amélioré mes capacités rédactionnelles dans l'ensemble. Aujourd'hui, écrire pour moi est devenu quelque chose d'évident au point où j'attends parfois que les autres écrivent. Je peux écrire des livres, je peux écrire des chansons. C'est vrai que je le faisais avant. J'écris des documents, j'écris des publicités, pas mal de choses en fait. Et tout ça, je crois que le fait de bloguer parfois, lorsqu'on doit s'adresser aux gens tous les jours et on se dit, demain on leur dit quoi et comment on dit, sachant qu'on a utilisé les mots d'hier, on arrive toujours à se réinventer. Et je pense que le blogging m'a vraiment apporté ça, de me familiariser avec l'écriture et on va même dire la parole. Ça a beaucoup servi à mon propre développement et au final, je crois que voilà.
Parlons maintenant du marketing digital. Tu travailles dans ce domaine depuis un peu plus de 5 ans avec ton entreprise. Et avec le recul et l'expérience, à quel niveau de maturation se trouve selon toi le développement du marketing digital au Cameroun?
Très sincèrement, il faut avouer que je ne suis pas... le marketing digital est hyper lâche. Moi, je connais ma part. Ça, il faut être réaliste. Mais au-delà de mes spécialisations, j'observe vraiment l'environnement. À mon avis, aujourd'hui, je veux dire, ça prend beaucoup de place. Il est difficile de voir des entreprises, quel que soit le type d'entreprise, de dresser une stratégie marketing, ça intègre le marketing digital. Pourquoi? Parce qu'on aborde des objets numériques qui n'échappent presque à personne. Jusque dans les contrées, on essaie aujourd'hui d'avoir un objet numérique. Et petit à petit, les choses montrent qu'on va forcément plus tard, pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés, s'y familiariser. La place du marketing digital au Cameroun, on va dire, être grandie. Peut-être elle n'est pas aussi, je veux dire, les procédés et les usages ne sont pas aussi avancés qu'à l'extérieur. Il y a des personnes qui ont été assez, comment dire, avant-gardistes, prémonitoires, qui ont engagé des manœuvres, mais que l'environnement n'a jamais su rattraper. Aujourd'hui, s'il faut parler concrètement en 2021, je pense qu'on a beaucoup ramené le marketing digital, particulièrement aux réseaux sociaux. Toujours est-il que, bon, marketing digital, c'est tellement large que certains le font même parfois, sans tenir compte qu'ils le font. Le SMS marketing reste la méthode la plus utilisée par les entreprises au Cameroun. Après, on va dire les réseaux sociaux. L'emailing a moins de place, mais quand on tient compte de tous les outils et tous les besoins que les entreprises ont souvent, des procédés qu'ils intègrent par exemple pour le recrutement de leurs cibles, on constate bien qu'il y a vraiment du marketing digital. Le problème souvent, c'est jusqu'où est-ce qu'on innove. On n'innove pas assez parce qu'on ne fréquente pas les outils nouveaux chez nous, on n'est pas en alerte par rapport à ce qu'on peut apporter de plus. Mais les réseaux sociaux nous imposent quand même la donne parce que les réseaux sociaux qui sont très liés aux habitudes, et puisque le marketeur, lui, il a une vision plus sociologique chez nous, il s'adapte aux réseaux sociaux. Et ce qu'on constate quand même, c'est que, voilà, sur ces plateformes, on se déploie, bien que je pense que c'est assez limité encore. Aujourd'hui, je trouve qu'on a du mal à utiliser des plateformes comme TikTok, tu vois, pour une entreprise réellement. Mais il y a un segment d'autres personnes, des influenceurs, des jeunes qui s'approprient facilement. Quitte à ce que les experts maintenant découvrent de quoi il s'agit et fassent vraiment une vraie expérience et offrent, c'est pas la cible, touche la cible à travers cela. D'un autre côté, il y a des plateformes comme Facebook qui est la plus connue, qui n'est pas tellement, à mon avis, utilisée à maturité parce que en dehors de quelques entreprises, vraiment, c'est très limité. Les updates qu'on a souvent, pour moi qui fouille un peu le background, je parle beaucoup de réseaux sociaux parce que moi, c'est ma spécialité dans le marketing digital. Je trouve que c'est pas encore tellement poussé. Mais je vois aussi, dernièrement, peut-être c'est ça qui va changer la chose, c'est le fait qu'on fait confiance au marketing d'influence. il y a au moins une conscience aujourd'hui, c'est qu'on s'est dit, les influenceurs apportent quelque chose. Peut-être on ne connaît pas techniquement comment fonctionne tout cet environnement. Je veux dire, que ce soit la publicité sponsorisée, que ce soit les différents outils de recrutement, de prospects, tout ce qui peut être, même les outils de création de contenu que les réseaux sociaux mettent à disposition. Tout le monde ne maîtrise pas, mais on a quand même conscience qu'il y a des personnes qui se sont appropriées les réseaux sociaux et qui sont capables de développer de l'audience. Dans le marketing digital aujourd'hui, se résume malheureusement beaucoup au marketing d'influence. Mais on voit quand même d'autres entreprises qui se démarquent. Je vais prendre le secteur du e-commerce par exemple, qui ont des procédés totalement différents de ceux qui visent le mass market ou bien qui ont des produits facilement accessibles. Donc tout dépend aussi de, comment dire, du besoin du marché sur lequel l'entreprise elle-même se positionne. Le reste maintenant, c'est l'outil. On a un outil. Comment on se sert de cet outil-là pour faire du marketing? Les outils sont proposés, mais nous, si on n'a pas l'idée nécessaire, la bonne idée pour pouvoir développer un marketing efficace, on ne va pas aller loin dans le marketing digital. On va rester sur les procédés classiques, en fait. Et c'est ce qu'on vit chez nous.
On reviendra un peu plus tard dans la discussion sur le marketing d'influence. On va continuer avec le marketing digital. De ton point de vue, est-ce que les annonceurs camerounais parviennent à tirer un bénéfice comptable direct des actions de marketing dans les univers numériques? Je vais parler ici non pas seulement du gain en notoriété en présence, mais surtout en argent comptant et trébuchant.
Je pense que les entreprises gagnent depuis très longtemps avec le numérique. Hein. Tu sais, le numérique, c'est pas seulement, ou bien le digital. Le digital, c'est pas juste le fait d'être connecté. On est sur le digital depuis pratiquement quoi? On est au Cameroun particulièrement à 30 ans de digital en fait. À 30 ans. Donc oui, je dirais les entreprises d'une certaine façon tirent profit. Parce que quand on voit aujourd'hui une affiche 4x3, une affiche telle, c'est une affiche numérique en fait. Il a fallu un logiciel Photoshop pour qu'on puisse faire le travail et autres. Donc sur le digital, on y est depuis en fait. Maintenant, c'est peut-être les innovations que le digital a apportées plus tard lorsqu'on est entré dans le 2.0. qu'on n'a pas encore totalement rattrapé. Et même là, je vais dire qu'il y a pas mal d'entreprises qui gagnent. Très concrètement, je vais citer des exemples. Pendant la crise, je travaille avec l'entreprise MTN. Lorsqu'il y a eu la crise du Covid, on a été obligé de restreindre toutes les actions au digital. Ce qui fait que MTN a concentré toute sa communication, du moins 90%, sur le digital. Le pilote, c'est-à-dire qu'on voulait lancer un projet, on se dit par quoi on commence, c'est le digital. Influenceurs. Après les influenceurs, les communautés. Après les communautés, vu que tout le monde était connecté, on les touchait par là et il y avait petit à petit une expansion. On commence par le digital avant de lancer les outdoors. Derrière, naturellement, il y a des résultats qui ont pu être générés, qui étaient visibles. À mon niveau, on m'a fait des retours. Je vais prendre l'exemple d'entreprises qui se sont créées sur le digital et qui aujourd'hui sont en train de devenir des grosses entreprises. Les Prince Food, c'est le marketing d'influence, c'est la recommandation, c'est le UGC qui a en fait amené Prince Food à être connu. Il n'a jamais communiqué en outdoor ou par autre procédé. C'est vraiment que sur Twitter, il y avait quelqu'un qui postait de bons plats. Il y a les Bold Makeup qui, depuis quelques années, de 2015 à aujourd'hui, se sont positionnés grâce au marketing digital. On parle d'entreprises digitales proprement dites. On peut ne pas parler des créateurs de contenu comme les Wanda Magazine qui sont là depuis, les Culture Ben, qui ont bâti tout un socle derrière le digital. Donc oui, si on définit l'entreprise dans ce sens-là, on va dire que oui, les entreprises gagnent. Maintenant, il faut tenir compte aussi des réalités de la société. Moi, je me dis le digital n'est qu'un canal. Et c'est un canal parmi tant d'autres. Ceux qui estiment qu'ils peuvent avoir vraiment un apport, quelque chose à gagner à travers le digital, ils s'y investissent plus. D'autres n'attendent pas forcément leur retour du digital. Mais je pense que ça rapporte à beaucoup. J'ai pris l'exemple de Friends Food, il y en a encore d'autres comme ça, qui vivent vraiment grâce au digital.
Nous sommes toujours avec Atom et nous abordons maintenant la question du marketing d'influence. Atom, c'est quoi le marketing d'influence?
De façon très simple, on va dire c'est le marketing qui utilise le canal des influenceurs pour s'appliquer. Maintenant, la grosse question même, c'est qu'est-ce qu'un influenceur? C'est ça la grosse question. Il faut dire que le mot influenceur a été créé aux besoins du marketeur. il y avait déjà le marketing digital, c'est-à-dire dans le marketing digital, on va avoir plusieurs procédés. Il y a l'emailing, il y a le marketing des réseaux sociaux, il y a le marketing, le web marketing. Il y a plein d'axes là. Et il est né plus tard le marketing d'influence parce que on a constaté en fait qu'il y a ce segment-là qui était de personnes qui étaient avant ce qu'on appelait les key leader opinion, c'est-à-dire ceux qui avaient la parole sur les réseaux sociaux, à qui on a attribué le titre d'influenceur plus tard. Mais moi, dans mes recherches, comme je l'explique toujours, un influenceur, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui influence au sens propre du terme. Parce que le mot influenceur arrive dans le Larousse en 2018. Donc avant 2018, on n'avait jamais dit influenceur dans le monde. Le mot influencer existe, le verbe, mais le mot influenceur, lui, il est récent. Je veux dire, le français a mis long avant de l'adopter. Maintenant, qui est l'influenceur? On va dire que c'est une personne qui, à travers son activité sur les réseaux sociaux particulièrement, est capable de donner de la visibilité à une marque, d'engager des personnes au profit d'une marque. On qualifie l'influenceur par quoi? Par sa communauté, les interactions qui sont menées autour de lui, la récurrence de son contenu, sa ligne éditoriale. Et voilà, c'est ça en fait qu'on appelle influenceur. Il y a plusieurs échelles. Mais vu au sens marketing, en fait, c'est comme ça qu'on le définit. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'est une notion qui évolue. Donc, je pense que bientôt, on va ajouter d'autres choses à la définition d'influenceur que je viens de donner. Il y a quelques temps encore, on essayait forcément de comparer l'influenceur au brand ambassador, à l'égérie, bref, tout ce qui était précédent au marketing, au leader de société, leader d'opinion et autres. Aujourd'hui, ça se mêle un peu parce que tout le monde a une carte numérique. Je suis politicien, je suis leader d'opinion à la base en société, mais lorsque je deviens celui qui a un profil internet, une page, je peux facilement devenir influenceur. Donc, c'est une notion qui commence à se re-questionner et que je pense dans 2 ans, on définira autrement. Peut-être finalement, l'influenceur sera tout ce que les autres étaient avant et ce que l'influenceur a voulu être au départ, c'est-à-dire le produit d'internet. Parce que je peux être très populaire, mais du moment où, malgré ma notoriété, je n'arrive pas à transférer la sympathie, l'estime et tout ce qu'on a de moi vers mon activité numérique ou social media, non, je ne peux pas être considéré comme influenceur. Ce qui est bien, c'est que à la différence, c'est pour ça que je disais, le marketing digital chez nous est très limité. Il y a des outils aujourd'hui, il y a des éléments qui permettent vraiment de positionner les influenceurs sur des standards, d'évaluer et de se dire, bon voilà, d'un point de vue marketing, celui-ci vraiment est rentable, n'est pas rentable, peut être considéré ou pas. C'est scientifique en fait, mais après, je pense que c'est des choses qui vont se remodeler.
On a compris que dans le marketing d'influence, l'une des parties prenantes sont les influenceurs. Au Cameroun, je parle là du Cameroun, sur quels critères se basent les entreprises et les publicitaires pour choisir les personnalités influentes sur les médias sociaux avec lesquels elles souhaitent travailler?
Malheureusement, chez nous au Cameroun, on se base sur l'écho. Donc, ce que j'appelle l'écho, c'est forcément jusqu'où est-ce que ton nom résonne et le nombre d'abonnés en fait. Il n'y a pas en fait un véritable procédé de ciblage bien réfléchi lorsqu'on parle d'influenceurs chez nous. Les entreprises encore ont vraiment du mal. Pour moi qui organise le blog Talk Show, qui les met souvent en discussion, beaucoup ont encore du mal à comprendre même ce que c'est qu'un influenceur jusqu'à aujourd'hui. Mais généralement, on choisit l'influenceur vraiment sur la base de sa popularité, sur les réseaux sociaux, du fait qu'il ait plusieurs abonnés et du spectre de personnes qu'il est susceptible de toucher. Mais c'est loin d'être le seul critère qu'il faut attribuer. Je vais prendre l'exemple par exemple de Muriel Blanche qui justement répond à ce critère-là dernièrement et qui est le pilote de cette génération qui apprend le marketing d'influence. Parce qu'à travers elle, il y a beaucoup d'endorsement deals, il y a beaucoup de collaborations avec les marques. Mais tout le monde se rue vers elle parce qu'on n'observe pas suffisamment notre environnement. On s'est dit, bon, comme c'est Muriel, tout le monde vient charger son calendrier. C'est un peu bancal parce qu'elle ne convient pas à tout, en vérité.
Justement, pour mettre l'eau dans ton moulin, on remarque que les observateurs et les professionnels au nom du marketing disent que les entreprises au Cameroun qui font appel aux influenceurs cherchent uniquement à faire du bruit, entre guillemets. C'est-à-dire inonder l'espace médiatique de leur présence. Est-ce que les objectifs de vente entrent en ligne de compte dans les contrats qui lient les annonceurs aux influenceurs, de ton point de vue?
Quand je faisais communication, il y a une théorie qu'on a appelée la théorie des usages et appropriations. C'est une théorie que j'avais retenue parce qu'on expliquait et avec vérité que lorsque un outil est créé et qu'il arrive d'un environnement, Les gens s'approprient cet outil-là en fonction de leur culture, leurs habitudes et autres. Et c'est ce qui se passe un peu avec, avec les influenceurs aujourd'hui. Moi, je pense que quoi, déjà au Cameroun, il ne faut pas chercher à vendre avec l'influenceur. Parce que quoi, l'environnement n'est pas fertile, n'est pas suffisamment fertile. C'est pour ça, prenons une simple expérience, l'expérience du e-commerce. Si on n'arrive pas à vendre avec tant de moyens qu'on a mis dans des plateformes comme Jumia, c'est-à-dire la confiance de pouvoir dépasser l'idée que je ne vois pas avant d'acheter, je ne touche pas. Avec le e-commerce, on n'a pas réussi à faire ça. Et les gens parfois attendent que les influenceurs fassent ces magies-là. C'est possible, mais ça peut pas être, comment dire, une formule dans tous les, à appliquer dans tous les cas et pas avec tout le monde surtout, pas avec tous les produits en plus. Donc ce que je pense, c'est quoi? Lorsque on veut recruter des influenceurs, vaut mieux utiliser le marketing d'influence, pas avec un objectif de vente, mais avec un objectif de vente indirect. Ça veut dire quoi? Je fais en sorte que je développe de l'awareness, je fais en sorte que je développe la notoriété de mon produit, je fais en sorte que je développe la prescription. Et la prescription peut plus tard pousser à l'achat. Maintenant, il y a des influenceurs avec lesquels on peut particulièrement parler d'achat. Et c'est là où les professionnels du marketing d'influence doivent entrer. C'est-à-dire, je prends un profil, j'ai un influenceur. Comment je peux réfléchir à la bonne formule en fonction de son audience, la façon dont il travaille au quotidien pour lui faire endosser un produit et créer un procédé d'achat? C'est ce qui s'est souvent fait ailleurs et qu'on a attendu ici, sauf qu'ici, on n'utilise pas les bons procédés. Ailleurs, on va voir, comme les gens ont souvent eu l'habitude de dire, on prend Kim Kardashian, qu'elle dit qu'elle porte tel tel, tout le monde peut acheter. Les gens pensent qu'on est venu, on a seulement donné à Kim Kardashian. Non, on crée un ensemble, de boucles. C'est-à-dire, on va faire en sorte d'abord qu'on accompagne Kim Kardashian par la publicité. On va la mettre dans un certain standing de vie. On va créer une publicité, on va créer des motifs sociaux qui vont faire en sorte que le produit soit vu par elle et que finalement, elle soit la personne de tendance. Et lorsqu'elle endosse le produit, on crée des actions commerciales derrière qui peuvent faire en sorte que la Kim Kardashian qu'on aime, on va venir, on dit bon, si toi tu fais telle chose avec Kim Kardashian, tu peux avoir une réduction, telle. Bref, on fabrique la tendance en fait chez eux. Chez nous, on ne sait pas faire ça, mais on veut venir donner un produit à l'influenceur, on dit vends. Donc moi, je préfère qu'on aille généralement ici sur la démarche de faire connaître et recommander. C'est encore mieux. Donc oui, avec les influenceurs, on peut parler de vente, mais il faut bien réfléchir à comment est-ce qu'on matérialise ou est-ce qu'on pense la vente en fait.
Quels sont les axes de développement du marketing d'influence aujourd'hui dans le contexte spécifique du Cameroun?
C'est une très belle question parce que ça, c'est la question qui permet vraiment de se projeter. Lorsqu'on observe, les premiers influenceurs camerounais à qui on a donné de la crédibilité, c'était les weblérités, c'est-à-dire les célébrités d'Internet. Nathalie Kwa, Coco Emilia, c'est elle en fait qu'on appelait influenceur avant. Mais la vérité, c'est que quoi, elle ne bénéficiait en fait que de tout ce qu'il y a comme discours produit autour d'elle et qui amenait qui amenait forcément de l'écho autour d'elle et de l'audience. Mais il n'y avait pas de réel procédé. Plus tard, on arrive aux vrais créateurs de contenu. Les vrais créateurs de contenu, c'est qui? C'est les humoristes. Après, on arrive aux créateurs de contenu sophistiqués. Le jour où la publicité d'Adora Palace a eu lieu, le marketing d'influence au Cameroun a pris un gros coup. Parce qu'on a constaté en fait qu'on peut se servir d'un influenceur ou du moins des réseaux sociaux pour faire connaître un produit. La gifle de Cool Black, je ne sais pas si tu t'en souviens. Directement, Planète les a contactés pour reproduire le même procédé. Et c'est comme ça que petit à petit, les influenceurs ont eu le culot de se dire que bon, nous aussi, on peut créer du contenu. Ceux qui faisaient déjà du contenu parallèlement ont réfléchi à comment engager les gens. Et j'ai vu les gens après se mettre vraiment dans cet élan. On a ensuite adopté particulièrement le placement produit. Lorsque la web série Pagnier a commencé à exploser, il y a des produits qu'on venait placer dans Pagnier. Plus tard, on a vu les Bao et autres. Ça allait tellement vite. Après, on arrive à Takam qui a un peu tout cassé, qui endossait tellement de produits. Je suis influenceur. Comment je fais pour faire passer le message sans que ça n'agresse et que moi-même je vive? Le concept bosse la pub. C'est des trucs qu'on devrait écrire dans les livres. Peut-être instinctivement il a pensé, mais la vérité c'est que ça marche bien. Moi je pense que le vrai défi sera vraiment que l'influenceur arrive à se dépasser, à ouvrir le mind. Et le travail doit être fait des deux côtés, ça doit être des agences et des influenceurs. Donc maintenant moi je pense que quoi, il y a quatre dispositions ou cinq. La première disposition d'abord c'est que l'influenceur doit aujourd'hui être capable de s'asseoir sur une niche. Deuxièmement, c'est qu'il doit être capable d'endosser un produit. Ça veut dire, je peux être aujourd'hui René, Je suis spécialisé dans la production de contenu média. Comment est-ce que René, en tant que personne qui fait du contenu média, peut faire en sorte qu'il prescrive un produit fashion? Peut-être ça va être sous l'angle de, je sais pas si c'est de l'écriture, ça va être sous l'angle fashion et média. Comment est-ce que les produits fashion sont traités dans les médias? La troisième disposition justement va avec celle-là, c'est que il serait bien que les influenceurs collaborent avec des marques à long terme. Finalement, on arrive à être dans un méli-mélo là où chacun un mois a son petit gombo. Mais ça tue un peu parce que à la fin d'année, on retrouve que tout le monde a bossé avec tout le monde. Et c'est pas si productif que ça. Alors que si on a des marques qui savent vraiment comment se positionner, travaillent avec des influenceurs et se disent que bon, moi voici mon gars à vie. Après d'ailleurs une étude, une bonne collaboration et même sur le plan économique, ça permet de gagner réellement des sous pour l'influenceur et de se positionner d'une bonne façon. La quatrième disposition, c'est les agences. Les agences ne font pas, à mon avis, leur travail en termes de marketing d'influence. C'est pas assez. On est très limité à... Oh non, il y a tel influenceur là, il faut qu'on le prenne. C'est tout. On ne cherche pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il faut qu'on le prenne, comment est-ce qu'on va l'utiliser, quels sont les bons retombées à long terme et autres. La cinquième autant pour moi, c'est que les influenceurs doivent apprendre à refuser et apprendre à mieux se positionner dans ce qu'ils font. Parce que je trouve que qu'un influenceur prend tout, juste parce qu'on lui a dit il est à l'audience et autres, à un moment il devient le produit de tout le monde. À un moment il se gâte, c'est pour ça que les gars ont des périodes, ils sont en mode 2-2 ans, 3-3 ans et après on meurt. Par contre, lorsqu'on sait refuser et qu'on sait se positionner sur ce qui nous ressemble, on gagne vraiment mieux. Donc ça, c'est pour moi la cinquième disposition. Et la dernière, peut-être c'est un bonus, c'est qu'il faut vraiment, je parlais d'être créatif, il faut aussi se nourrir. Les gens n'apprennent pas les procédés. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on devient influenceur, on peut facilement devenir demain même une agence. Et quand on voit comment les gars sont limités en termes de, je vais dire quoi, d'outils, en termes d'acquisition, de méthodes et autres, ça craint quand même. Mais toujours est-il que la créativité, je vais parler de creative marketing, c'est ça la chose la plus importante. Quand on y arrive vraiment, je pense que rien ne nous dépasse, on peut se renouveler autant que possible avec le temps.
Nous sommes arrivés au bout de cet entretien, Atom. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour les auditeurs de ce podcast?
Bon, comme dernier mot, je dirais que, comme je dis toujours, ce n'est pas nous qui avons créé Internet, ce n'est pas nous qui avons créé le numérique, mais c'est venu nous trouver. Et comme le président Paul Biya avait dit, à chaque génération, c'est des défis historiques. Le vôtre, il est dans le numérique. Personnellement, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup motivé pour faire ce que je fais parce que j'ai constaté que je ne pouvais pas me positionner là où les autres avaient déjà travaillé, mais j'avais encore l'avantage d'apprendre mieux sur ce qu'ils ne connaissaient pas encore. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à être des formateurs. Ce n'est pas parce qu'on connaît trop. C'est parce qu'on s'est dit, bon, les autres n'ont pas encore touché ici. Allons un peu toucher. Ça va nous aider demain. Donc, il faut forcément y faire confiance à ces nouveaux outils, mais prendre aussi conscience que lorsqu'on fait du marketing, le marketing, c'est le marketing. Ça veut dire dès qu'on enlève le digital, ça reste le marketing. Si tu penses que le marketing va se limiter au digital, le jour où il n'y aura pas de digital, tu fais quoi? Donc, pensons marketing pour ceux qui travaillent vraiment. Si tu penses marketing, un jour tu seras dans la rue là, on aura coupé l'électricité, tu n'auras pas ton portable. Tu vas faire ton marketing comme le bon Nangaboko qui vient, il t'aborde en un coup. Le gars sait déjà que celui-ci aime chausser tel, il entre dans toi psychologiquement. Donc, voilà mon dernier mot. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé cette interview. C'est un privilège.
Merci de l'avoir accepté, Atom. Bon courage pour la suite.
Merci à toi aussi.
Atom est très présent sur les réseaux sociaux où vous pouvez le retrouver en entrant le terme Atom Blogueur dans votre barre de recherche. C'est tout pour cet épisode de votre podcast N.com. Je vous rappelle qu'il est disponible sur mon site web kowa.com, nkowa.com. Retrouvez-le aussi sur Apple Podcasts, sur Spotify et sur Google Podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée et de déposer un commentaire dans la case dédiée. Vous savez, un j'aime ou un partage sera toujours le bienvenu, car votre interaction et votre feedback sont le carburant qui permet de produire cette émission. Alors, commentez, likez et partagez. Rendez-vous le mois prochain avec une nouvelle actrice ou un nouvel acteur des médias et du numérique au Cameroun. À bientôt.